Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Caleb. Pour une fois, c'est vous qui aurez la parole en ce début de prédication. Et donc, je vous pose la question, qu'est-ce que le nom de Caleb évoque pour vous? Et on peut commencer déjà par son identité. Qui est Caleb? Qui est-il et d'où sort-il? Pardon? Alors, ça c'est ce qu'il a fait, mais ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est fils de Jéphuné et il est de la tribu de Juda. C'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Jéphuné, donc son père. Et donc, voilà, tu l'as dit, Michael. Dans quelles circonstances la Bible nous parle-t-elle de Caleb? D'accord. Donc, 12 espions, et lui représente parmi ces 12 espions la tribu de Juda, qui font une incursion en Canaan de 280-300 kilomètres depuis le sud de la terre promise, et le fameux épisode qui est souvent rappelé de Kadesh Barnéa, c'est là qu'ils partent, et c'est là que s'est passé cet épisode dont tu parles, donc, où avec Josué, ils font équipe pour dire non, on ne peut pas se laisser décourager. Donc, cette incursion consiste en quoi? Peut-être changer, si d'autres peuvent... Qu'est-ce qui se passe au cours de cette incursion qu'ils font au Canaan? Il ramène des fruits, oui. Il rencontre des gens. Alors des gens très très grands. Des villes fortifiées très grandes, on nous dit aussi. Il remarque aussi que partout le pays est occupé. Il n'y a pas un endroit où poser son pied pour être tranquille tout seul. Et pas une vallée, pas une bande côtière qui ne soit occupée par quelqu'un. Et comble de terreur, ces gens très très grands qu'ils croisent et qui habitent la ville d'Hébron, la région d'Hébron, sont même nommés, Aïman, Shéchaï et Talmaï, alors retenez bien leurs noms, on en reparlera, qui sont des descendants du géant Anak, qui habitait la ville d'Hébron, une des premières villes qu'ils rencontrent, qu'ils trouvent sur leur route, sur le chemin de la conquête. On nous donne trois noms, ceux que je viens de citer, que je ne vais pas m'acharner c'est pas facile à prononcer, et on peut certainement les entendre dans un sens plus large, peut-être des familles, des clans, probablement pas des peuples, taille qui soit sans doute le mot qui soit le plus adapté, et probablement le mot de clan. Hébron est aujourd'hui une ville de Cisjordanie, une ville palestinienne qui compte 160 000 habitants et qui se trouve à 30 km au sud de Jérusalem. C'est une cité très ancienne qui portait auparavant le nom de Kiryat Arba. La ville d'Arba, ça veut dire du nom du père d'Anak. Anak étant un de ces géants qu'on appelle les Anakim, des gens très grands. Et c'est là, donc, à Hébron, que Abraham a enterré Sarah, et que lui-même, Isaac et Jacob, avec ses épouses, Léa et Rachel, est enterré. Et le lieu est aujourd'hui appelé le tombeau des patriarches. Un édifice a été construit au-dessus des grottes dans lesquelles ces patriarches ont été enterrés. Alors, comment réagit Caleb? Ça a été un peu, Michael, un peu esquissé. Avec Josué, mais il est même le premier avec Josué, avant même Josué, il est le premier à réagir. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et ce n'est que dans un deuxième temps que Josué, peut-être quelqu'un de moins impulsif, de plus réfléchi, le rejoint dans sa tentative de provoquer le ressaisissement du peuple, de le remettre dans le plan de Dieu, dans une perspective de conquête, tant qu'il est encore temps, tant que Dieu n'a pas exprimé sa colère. Quelles conséquences à cet épisode de Kadesh Barnéa? Je peux le dire. Quelles conséquences à cet épisode de Kadesh Barnéa, Elliot? Exactement. Exactement. Voilà. Dieu estime que ce peuple n'est pas digne de la terre promise. Il décide que tous ceux qui ont plus de 20 ans n'y entreront pas et il décide de la réserver à leurs enfants et petits-enfants. Les 20 ans et plus, excepté Caleb et Josué, tous retourneront dans le désert et il faudra 40 ans pour qu'ils meurent tous un à un, l'un après l'autre, jusqu'à ce que la descendance et les moins de 20 ans, au moment de cet épisode, puissent conquérir et prendre possession de la terre promise. À cette occasion, Dieu déclarera à Moïse que Caleb a été animé d'un esprit différent, d'un autre esprit du reste du peuple, et qu'il a obéi sans hésitation jusqu'au bout, et c'est ce qui lui doit de pouvoir fouler le sol de la terre promise. Autre chose sur Caleb. Eh oui. Et un autre épisode moins connu, je pense que c'est cela dont tu parles et qui va servir d'appui à notre réflexion de ce matin, se trouve en Josué au chapitre 14. Et donc, je vous propose de lire Josué chapitre 14 à partir du verset 6. Les Judéens, donc les membres de la tribu de Juda à laquelle appartenait Caleb, les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, lui dit « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa explorer le pays. C'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple. » Les 10 autres espions, donc. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'avait confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, donc des descendants d'Anak, ces fameux géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, eut jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiryat Arba. Arba avait été le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix et sans guerre. Et juste, on saute un peu plus loin, on nous décrit quelles sont les limites du territoire accordé à Juda, à la tribu de Juda. Et je vous propose de sauter au verset 13 du chapitre 15. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb chassa de cette ville les trois descendants d'Anak, Shashai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. Continue un petit peu parce que il n'est pas fatigué, il va aller un peu plus loin, mais nous, on va s'arrêter là. Ce sera bien assez pour aujourd'hui. Vous avez reconnu les trois noms, les trois lascars dont il était question lors du premier épisode à Kadesh. Et donc nous sommes là à la toute fin de la conquête de Canaan, et Josué vient de procéder à la répartition des territoires par tribu, par tirage au sort pour les territoires situés à l'ouest, et selon des instructions reçues de Moïse pour les territoires situés à l'est. La requête de Caleb est assez surprenante parce que elle est au milieu déjà, la ville d'Hébron est au milieu du territoire qui échoit à sa tribu, la tribu de Juda. Et il demande, lui, d'une manière assez surprenante, et pour lui-même, donc je suppose pour sa famille et sa descendance, une région donnée, une localité donnée, la région d'Hébron en particulier. Et plus étonnant encore, malgré son âge, il est bien résolu à en découdre une fois pour toutes avec ces géants qui sont pour lui comme une épine dans le pied. Le reste du peuple, lui, semble avoir oublié les géants. Une simple allusion au chapitre 11, deux malheureux petits versets pour nous dire, entre la poire et le fromage, que Josué part en guerre contre eux et va les exterminer. Une broutille, une peccadille. Mais il n'en est pas de même pour Caleb. Non pas que ces géants l'impressionnent plus que les autres, son comportement passé a été clair, mais peut-être à cause de ce qu'il représente pour lui, qui a vécu douloureusement, j'imagine, l'épisode de Kadesh Barnéa. Les géants, c'est la chute d'Israël, Israël son peuple. Les géants, c'est la cause de la révélation consternante que son peuple n'est pas prêt à obéir à Dieu. Les géants, c'est prendre en pleine gueule que ses frères et sœurs en veulent à Dieu, en veulent à Moïse, de les avoir libérés de l'esclavage de l'Égypte et de son pharaon, un païen idolâtre et assoiffé de pouvoir. Caleb, oui, a un compte à régler avec ces géants, non pas parce qu'il veut prouver que lui, Caleb, il est plus fort qu'eux, mais pour rétablir l'ordre des choses. L'ordre des choses que Dieu avait donné. Je donne le pays de Canaan aux enfants d'Israël, avait-il dit. Et Caleb, lui, avait relayé cette parole. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Vous noterez que, ici, dans le texte que nous avons lu, à 85 ans, il est un tout petit peu moins sûr de lui. Lorsqu'il déclare à Josué, si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. C'est normal, c'est l'âge. Et malgré toutes ces considérations un peu prétentieuses sur sa forme, aussi fort aujourd'hui à 85 ans qu'à 40, mon œil. Mais en 45 ans passés dans le désert, Caleb a aussi appris à ne pas invoquer le nom de l'Éternel. Sur toute entreprise à la légère. Donc la démarche de Caleb doit sembler bien désuète aux yeux de la génération conquérante d'Israël, pour qui tout ça, c'est quand même une histoire ancienne, ça date de 45 ans. Ça y est, voilà Caleb qui nous la ramène avec ses histoires de l'ancien temps sur les géants. Mais Caleb a une autre raison d'agir comme il le fait. Il a une promesse à faire valoir. C'est ce que nous lisons au verset 9. Ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel ton Dieu. Mais il fait aussi un constat. Maintenant, voici ce que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Et il fait donc ce constat, et il voit dans sa présence ici, et à son âge avancé, un premier accomplissement de la promesse que Dieu a faite par l'intermédiaire de Moïse. Mais pour lui, la promesse est plus précise que ça. le pays que son pied a foulé n'est pas n'importe quel coin de Canaan. Une station balnéaire bien sympa où il pourrait faire sécher, reposer ses vieux os, soigner ses vieux os, ou une plaine fertile pour ses enfants. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé dans mes recherches d'où il tire cette conviction, mais ça semble clair pour lui. Le pays que Dieu lui a promis, 45 ans plus tôt, c'est la région montagneuse d'Hébron. Là où lui et ses collègues ont croisé la route de ces fichus géants, là où des villes grandes et fortifiées font de toute idée de conquête un rêve délirant. Et peut-être Caleb voit-il aussi un second accomplissement de la promesse dans le résultat de l'attribution des territoires par tirage au sort. Hébron est en plein milieu, presque, du territoire accordé à sa tribu, Juda. Le tirage au sort, on le sait, c'est une pratique souvent utilisée dans la Bible et que les responsables emploient pour départager des solutions équivalentes, qu'on estimait équivalentes sur le papier, pour laisser à Dieu le dernier mot, en quelque sorte. Et on est proche de nous, hein, ça doit vous dire quelque chose. Dans les Actes, on retrouve cette pratique au moment de départager les deux candidats pour remplacer Judas auprès des 11 apôtres. Et donc, pour Caleb, ce tirage au sort, sur lequel il ne peut peser en rien, constitue un élément de plus qui va dans le sens de l'accomplissement de la promesse et l'en rapproche un peu plus. J'ai frappé ce matin, on a chanté « Rien ne peut égaler tes promesses pour moi ». Qu'est-ce que vaut une promesse vieille de 45 ans ? Vous vous rendez compte ? 45 ans ! 45 ans ! Alors, je ne vais pas le redire une troisième fois, mais... Hein ? Ce chiffre impressionne, même si... certaines considérations permettent de le relativiser. Déjà, sur les 45 ans, 40 était incontournable et annoncé d'avance par Dieu lui-même. Israël savait qu'il en avait pris pour 40 ans, Dieu l'avait dit. Et rien ne pouvait se passer avant. Avoir une échéance connue, ça aide hein, quand même. Hein. Savoir que c'est dans 40 ans que les choses se décoincent, c'est quand même pas la même chose que de se lever tous les matins en se demandant si c'est pour aujourd'hui. Il fallait juste prendre son mal en patience, ronger son frein, année après année, en mangeant 5 fruits et légumes par jour, et suivant un régime riche en oméga-3 pour espérer vivre assez vieux. Mais même avec ça, Caleb avait déjà 40 ans quand tout ça s'est passé. Et il lui fallait croire que tous ces gens qui avaient 19 ans, jusqu'à 19 ans et 364 jours de moins que lui, allaient mourir avant lui. Ils allaient tous disparaître les uns après les autres, alors que lui, il allait rester frais comme un gardon. Et même parmi les vieux, combien, année après année, n'en finissaient pas de ne pas mourir. Peut-être même l'année, le mois précédant l'échéance fatidique, le narguait-il encore de leur forme insolente. Si Caleb n'avait pas fléchi face au géant d'Hébron, à combien de géants spirituels, émotionnels, psychologiques avait-il dû faire face les 40 années durant ? Les véritables géants n'étaient peut-être pas ceux qu'on croit. Je vous propose d'essayer de les passer en revue. Il avait donc été le premier, on l'a dit, à se lever à Kadesh Barnéa et rejoint par Josué dans un deuxième temps. Il était même plus âgé que Josué. Et il aurait pu prétendre à ce titre, et parce qu'il avait été le premier à prendre la suite de Moïse après sa mort dans la direction d'Israël. J'imagine qu'il ne lui a pas été si évident que ça d'accepter que Dieu demande à Moïse d'établir Josué plutôt que lui à la tête d'Israël. Et même ici, dans l'épisode qu'on vient de lire, 45 ans après cet acte où il se levait seul à Kadesh, venir implorer Josué de lui accorder ce qui pouvait apparaître à d'autres comme une faveur et non comme un dû, ça tombe pas sous le sens. Il expose sa demande à Josué avec assurance, on le voit, il n'est pas dans une revendication bruyante et s'en remet à son appréciation. Et enfin, se laisser bénir par Josué est un geste du supérieur envers l'inférieur, hein, c'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ça tombe pas non plus sous le sens s'agissant du héros de Kadès-Barnéa. On ne peut pas tous être des Moïse ou des Josué, il faut des qualités très spéciales de leadership spirituel. D'ailleurs, si nous étions tous des leaders, nous n'aurions personne à l'idée, donc, et il faudrait encore que d'autres soient encore plus leaders que les leaders pour mener le troupeau. Un troupeau de leaders, je vous imagine le tableau, c'est pas la réalité. Mais se laisser inspirer par le caractère d'un Caleb, par sa détermination, sa confiance, sa persévérance, est peut-être beaucoup plus accessible à un plus grand nombre. Alors, je propose de poursuivre notre petit tour d'horizon des géants qui ont pu trouver Caleb au cours des 45 dernières années. On en est réduit à des suppositions, car la Bible ne nous dit rien à son sujet entre Kadès-Barnéa et Gilgal dans notre texte. Et essayons quand même de nous mettre à sa place. Se retrouver au milieu d'un peuple rebelle, poltron, ingrat, non sans avoir montré l'exemple, et au final, subir les mêmes conséquences du jugement de Dieu, et ce, 40 ans durant. Peut-être quoi être aigri, hein. À chaque fois que la route est difficile, que le chemin est semé d'embûches, et que ce n'est pas ce chemin de victoire qui aurait dû être, de mordre les lèvres pour ne pas s'écrier « si vous m'aviez écouté, j'avais bien dit, etc. etc. » Participer quand même à la vie du peuple, à ses projets étriqués de vivre seulement jusqu'à demain, travailler à son niveau, à surmonter avec le peuple des obstacles qui continuent de se poser eux-mêmes. L'obstacle en Canaan, ce n'était pas les géants, c'était le regard qu'ils portaient sur eux. En méconnaissant que ces géants n'étaient en définitive ni si nombreux, ni si redoutables que ça, mais surtout en oubliant que Dieu était avec eux, ils se sont tirés une balle dans le pied. Et après, ça continue. À peine ont-ils pris conscience de leur erreur qu'ils en commettent une autre encore en espérant renverser la situation eux-mêmes. Se rattraper en quelque sorte, au mépris de l'avertissement de Moïse et se font tailler en pièces. Un peu plus tard, certains provoquent un soulèvement contre Moïse à Aaron qui débouchera sur un fléau détruisant près de 15 000 personnes. Les obstacles les plus difficiles à surmonter sont ceux qu'on se pose soi-même. On a appelé l'affaire DSK il y a quelques années. Plus près de nous, les rebondissements incroyables qu'on a connus dans la campagne électorale de l'année dernière en sont le plus bel exemple. Quoi d'autre? Qu'est-ce que Caleb a dû affronter qu'il aurait volontiers échangé contre 10 géants? En guise de légumes et de fruits, manger la manne 40 ans durant dans le désert, dans un désert brûlant et sans eau, alors qu'il avait goûter aux raisins incroyablement généreux de Canaan, à ses figues, à ses grenades, nous dit le texte, son lait et son miel, des sources rafraîchissantes. Qui sait même entendre à n'en plus finir la nouvelle génération fustiger et maudire ses parents n'avoir pas été à la hauteur à Kadès et d'en faire la source de toutes ses difficultés sans réaliser que elle ne doit d'avoir échappé au jugement de Dieu, non au fait d'être plus sage, mais au fait d'être plus jeune. Être exposé sans distinction et sans nuance aux critiques à l'emporte-pièce envers sa génération. Et le moment venu, au bout de 40 ans interminables, se remotiver pour la conquête, sans pouvoir totalement oublier le désastre de la première fois, avec à l'estomac une boule, à l'idée que le désastre ne se reproduise, et en repensant à tous ces gens tombés dans le désert. Et puis, si ça n'était que ça, il a fallu attendre encore 5 années de plus que la conquête se réalise, avant que les territoires soient répartis entre les 12 tribus. Dieu l'avait bien dit qu'Israël ne prendrait pas possession du pays que très progressivement. Mais pour le héros de Kadès, dans son esprit, probablement quelques mois suffiraient. La patience, le temps de Dieu, encore d'autres géants à apprivoiser. Mais enfin, au bout du compte, le moment tant attendu est arrivé. Israël a désormais sa terre, le pays est en paix. La tribu de Juda dispose d'un territoire qui englobe la région que Dieu avait promise à Caïr, que Dieu avait promise à Caleb. Vécu heureux et eu beaucoup de petits-enfants. Bien non, Caleb en veut. Il veut voir l'accomplissement plein et entier de la promesse de Dieu à son égard. Les géants, pour les autres, ça ne veut plus dire grand-chose, sont passés à autre chose. En fait, ce que Caleb obtient et le combat qu'il mène à Hébron, ça est assez anecdotique dans la conquête de Canaan, en définitive. Ça ne fait pas les choux gras de la presse nationale, juste un petit entrefilet dans les pages locales de la Gazette hébronaise. Mais ce n'est pas ce qu'il recherche, et ce n'est pas parce que c'est anecdotique qu'il renonce. Il veut refermer la boucle, proprement, dignement, finir le boulot qui a été interrompu 45 ans plus tôt contre son père. Je pense que cet échange qu'il a avec Josué est plein d'émotions. En particulier le moment où Josué bénit Caleb. Ils ont vécu ensemble un moment tragique 45 ans plus tôt, et si leurs trajectoires personnelles ont été très différentes, ont vécu ensemble les mêmes choses et se retrouvent à Gilgal, en plein milieu de ce territoire, dont ils ont pris possession ensemble. Après toutes ces années, on vit ce moment intense. Voilà, ça y est, ils y sont. Après cela, donc, Caleb va régler leur compte aux 3 descendants d'Anak qu'il avait déjà croisés lors de son excursion en Canaan, Shéchaï, Aïman et Talmaï. Dans un premier temps, en préparant ce message, j'ai été très tenté de m'attarder sur quelques considérations à propos de ces géants. Qui étaient-ils? Combien? Comme on dit, c'est plus probablement un clan, une famille patriarcale peut-être. De quelle taille? Il ne nous est donné du récit des espions qu'une comparaison, celle d'être apparus, et il précise à leurs yeux comme aux nôtres, hein, aux propres yeux aux espions comme aux yeux de ces Anakim, comme des sauterelles. Et la comparaison n'est évidemment pas à prendre à la lettre en termes de proportion. Peut-être vous vous souvenez de la famille Jennings, hein, qui était là avec nous il y a un an de ça. Moi, quand je me tenais à côté d'Ethan, je me sentais aussi comme une sauterelle, hein. Mais déjà qu'il est assez curieux que comment certaines choses changent de taille en suivant le regard qu'on y porte. Et dans leur expression, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, les espions l'admettent implicitement. Quant à savoir si effectivement les Anakim les voyaient, eux, petits et insignifiants, comme des sauterelles, ce ne sont que des spéculations. Et de toute façon, se sent petit paraît petit. Là n'est pas la question, car quand bien même le défi serait immense, quand bien même il serait insurmontable à nos yeux et aux yeux de ceux qui nous regarderaient de haut, si c'est le défi auquel Dieu nous soumet, si nous sommes convaincus qu'il est avec nous, pourquoi renoncer? Je rappelle ici à votre mémoire, hein, ceux qui étaient à notre week-end d'église avec Chris Short. Je vous rappelle, on met en mémoire l'équation de Short. 100 plus infini égale infini. 10 plus infini égale infini. 1 plus infini égale infini. Et dans l'équation, Dieu est l'infini. Donc ce n'est pas le nombre que nous sommes, que l'on va rajouter à l'infini de Dieu, qui va ajouter quoi que ce soit à la force. Par contre, Dieu va laisser à ce 10, à ce 100, à ce 1, le choix de dire, on y va. Et on y va avec Dieu. Il faut se méfier des scénarios écrits d'avance. Aussi bien des scénarios perdants que des scénarios gagnants, d'ailleurs. L'histoire récente de notre Église le prouve une fois de plus, si besoin en était. Depuis des mois, des années presque, l'obtention d'un prêt était considéré comme une formalité. Et son refus nous semblait comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Le dos au mur, nous en avons été réduits à prendre notre bâton de pèlerin pour rencontrer nos banquiers, notre banquier dans nos petits souliers, à traiter avec des gens que nous ne connaissions pas, qui ne nous connaissaient pas, dans un contexte de vacances qui compliquait tout. Ça a été évident pour moi dès les premières secondes que nous avons rencontré rencontrer notre interlocuteur, celui que nous avions en face de nous, était un géant. Alors, pas un géant malveillant, pas un géant ennemi, mais nous étions tout petits face à sa connaissance et sa maîtrise des dossiers financiers. Nous ne pouvions pas faire illusion, nous étions obligés de nous livrer tels que nous étions. Il n'y avait pas d'autre choix que celui de s'en remettre à Dieu. Et Dieu, vous le savez, vous l'avez vécu au cours de l'été, Dieu nous a surpris incroyablement. Ces voies, ce ne sont pas nos voies. Le chemin que nous avions estimé tout tracé n'était pas celui qu'il fallait emprunter. Inconnu, impressionnant, manquant de repères. Et c'est ce chemin que Dieu s'est chargé de nous rappeler à cette occasion. Que ces voies ne sont pas nos voies. Et ces voies, les voies de Dieu, nous obligent infiniment plus à les suivre plus près de lui. Et revenons à Caleb, et il est temps d'en conclure, et conclure en nous appliquant à nous-mêmes ce que nous avons développé. Quels sont les géants dans nos vies avec lesquels nous avons un compte à régler? Je ne demande même pas, y a-t-il des géants? Quels sont les géants? Il y en a, c'est sûr. Il s'agit de les débusquer, de leur faire quitter le lieu où ils sont, les déplacer, afin qu'ils ne troublent plus notre paix. Quelles sont les villes grandes et fortifiées dont nous nous tenons depuis si longtemps à distance respectueuse? Quel défi, quel combat est devant moi que je considère comme joué d'avance, perdant ou gagnant? Joué gagnant et que je livre sans Dieu? Ou jouer perdant, en m'estimant trop petit, en renonçant à livrer bataille avec Dieu à mes côtés. Ces deux attitudes se traduisent par des comportements opposés. Les deux, en définitive, procèdent d'une certaine forme d'orgueil. La première, évidemment, de manière flagrante. Et dans la seconde, trop petit, pas à la hauteur, j'admets implicitement que s'il en était autrement, moi aussi, je livrerais bataille sans Dieu. De toute façon, nous sommes tous par nature trop petits et pas à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Mais Dieu n'est pas trop petit, Dieu est à la hauteur des combats, des défis qu'il nous envoie. À 40 ans déjà, Caleb l'avait compris. À 85 ans, et bien qu'il se dise aussi fort qu'alors, il a encore plus compris qu'il a surtout besoin que Dieu soit avec lui. Quel est le géant que nous avons toléré dans nos vies et qui nous a imposé sa loi? Ou d'où nous nous sommes imposé la loi depuis si longtemps, 40 ans peut-être? Un péché? Une personne que nous avons mise sur un piédestal et que nous avons idéalisé? Un échec cuisant qui nous retient de nous frotter à nouveau aux problèmes? Une rancœur, une blessure, une offense commise envers nous, mais peut-être aussi une offense que nous aurions commise envers quelqu'un. Peut-être avons-nous appris à un moment ou à un autre de notre vie que là et là, nous avons telle et telle limite. C'est bien de reconnaître ces limites. Sage, c'est normal. Mais il y a des circonstances où nous pouvons être confrontés à la nécessité de retester les limites et voire de les repousser. Si j'ai passé toute ma scolarité à sauter 1m15 au saut à l'élastique, au saut à hauteur, et que demain je me trouve pris dans une enceinte en feu dont les murs font 1m50, est-ce que je ne vais pas essayer de les franchir? Peut-être aussi en est-il des limites comme des obstacles les plus infranchissables, ne sont-elles pas celles que nous nous posons nous-mêmes? Mais Dieu nous pousse souvent dans nos retranchements. Il nous place souvent face à nos limites. Parfois, nous nous rendons compte que c'est pour nous permettre de réaliser que nous les avons placées trop bas. Et parfois, c'est un pas de foi qui nous a demandé pour aller au-delà d'une limite bien réelle, parmi lesquelles celles qui ne dépendent pas de nous. Ces deux choses, nous avons vécu ensemble au cours de ces deux dernières années autour du projet d'Église, en particulier dans le projet immobilier. Ce n'est pas parce que ça remonte à loin qu'il faut passer dessus. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore atteint l'âge de 85 ans que nous ne sommes pas déjà concernés. Ce n'est pas non plus parce que nous avons atteint l'âge de 85 ans que le combat est perdu avance. Ce n'est pas parce que nous avons appris à vivre avec ou à éviter les géants qu'il faut les laisser en place en évitant de s'y frotter. Le pire, c'est quand l'épine est tellement enfoncée dans la peau que la peau s'est refermée dessus. Le pire, c'est quand il ne nous gêne plus. Et le meilleur, bien, on va lire le meilleur. Ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6 et verset 12. Vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Caleb a voulu le meilleur, l'héritage que Dieu lui avait promis. Et moi, je retiens trois choses de ces trois grands faits marquants de sa vie. Première chose, à Kadesh Barnéa, il a choisi son camp. Il a dévoilé ses propres valeurs, qui étaient l'héritage promis par Dieu pour son peuple. Il s'est mis sur les rangs en vue de prendre possession de cet héritage. Il a démontré sa foi dans le Dieu qui balaye tout obstacle. La deuxième chose que je retiens, c'est le deuxième fait marquant dont la Bible ne nous dit rien à propos de Caleb, mais qu'on a voyagé dans cette imagination un petit peu de ce qu'il a pu vivre. Le deuxième fait marquant, c'est dans le désert. Il a gardé l'héritage en ligne de mire. Il a su attendre en silence le bon moment. Il ne s'est pas compromis avec les impatients. Et quand je considère les traits de caractère qui apparaissent dans le peu qu'on connaît de lui, je pense que c'est là, dans sa vie personnelle, dans sa vie au milieu du peuple, que peut-être il a affronté les plus grands et le plus grand nombre de géants. Nos géants, peut-être à Kadesh, nos géants, peut-être dans le désert, dans des personnes, et nos géants sont peut-être dans le troisième lieu, à Gilgal, quand il a pris possession de l'héritage avec une foi et une détermination qui étaient intactes. Et même qu'à Kadesh, toujours plus certain que c'est avec Dieu et avec Dieu seul que s'écrit la victoire, dans la victoire, l'histoire du peuple de Dieu.